France Culture. Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Estelle Meyer. Vers 19h45, le son du jour, Wild God de Nick Cave and the Bad Seeds. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à Marrakech pour nous faire vivre le festival de danse On Marche. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Dali Ya à la prise de son. Bonsoir Estelle Meyer.
Bonsoir Arnaud.
Vous êtes en ce moment en tournée avec votre spectacle Niquer la fatalité. Après-demain, 8 mars, ce sera au Théâtre Berthelot à Montreuil. Puis vous jouerez ensuite à Romainville, à Guyancourt, à Saint-Étienne-de-Rouvray, à Marcoussis, à La Roche-sur-Yon, à Mortagne, au Perche. Puis d'autres dates suivront, d'autres spectacles aussi. Niquer la fatalité, c'est aussi un livre publié par l'association Phénomène. C'est aussi un podcast, puisque vous l'avez enregistré pour les fictions de France Culture. On en écoutera un extrait tout à l'heure dans cette émission. On va bien sûr parler de ce spectacle, mais profiter de votre venue pour en savoir un peu plus sur vous, sur ce qui nourrit aussi votre travail et vous connaître, puisque, selon une de vos formules fétiches, puisque vous êtes là, autant y être. D'où vient cette formule ?
Je pense que il faut crever un petit peu le fantasme pour arriver bien sur la terre. Donc c'est pour commencer à avoir les pieds bien ancrés, genre les bons petits sabots dans le sol.
Autant y être. Formule.
Autant y être.
Alors, formule, ça peut aussi renvoyer un imaginaire de magie blanche, concernant Estelle Meyer, puisque pour vous qui avez grandi pas loin de Fontainebleau, mais donc assez loin de la forêt de Brocéliande, le jardin de la maison familiale a eu quand même une grande importance, puisque vous y avez développé des rituels, notamment auprès de votre arbre fétiche que vous avez baptisé Morgane. C'est quoi vos premiers souvenirs de rituels ?
Je crois que c'est la mort de ma lapine, qui s'appelait Couli, une angora papillon noire et blanche. Et quand elle est morte, vraiment, je suis tombée par terre, comme c'était la fin de la tendresse. Je sais pas, quelque chose comme ça. Et du coup, mon père avait creusé un trou dans le jardin et avec une grande cérémonie, je lui ai coupé des petits poils mis dans un médaillon. J'ai coupé des marguerites et j'ai mis vraiment des pétales, j'ai chanté. C'était vraiment important pour moi de la veiller, de la fêter, de respecter tous les vivants et leur départ et la tendresse de ma lapine en CE1, c'était immense.
CE1, donc ça fait quoi, 7 ans ?
Ça fait un petit 6-7, ouais.
6-7, ouais. À propos d'âge et d'ascendance, alors côté grands-parents, il y a un de vos grands-pères qui était violoniste, classique, une de vos grands-mères qui était ethnologue, notamment spécialisée dans les traditions orales d'Afrique de l'Ouest. Ajoutons à ça donc un père non seulement creusé le jardin, mais qui était mathématicien et chercheur à l'école des mines, une mère chanteuse lyrique, spécialiste de l'art sacré. Précisons aussi, Estelle Meyer, que vous êtes la troisième d'une fratrie de quatre. De cette ascendance, qu'est-ce qui vous semble être l'héritage ou les héritages les plus importants ?
Je dirais tout de suite le métissage, l'ouverture. Ma mère, elle venait plutôt d'un milieu assez quand même bourgeois, parisien, intellectuel. Ma grand-mère, elle était directrice de recherche au CNRS, elle parlait l'arabe littéraire. Elle a fait le premier dictionnaire français d'Ogon. Mon grand-père, violoniste, qui faisait des tournées. Et du côté de mon père, c'est des paysans, c'est des viticulteurs qui font du vin. J'avais vu l'arbre généalogique, c'est que des métiers de la main, des tonneliers, des maréchal ferrant, maraîcher. Et déjà, pour moi, il y a un métissage des mondes entre la main et la pensée, enfin, entre le respect du vivant et comment tu penses le vivant, et une ouverture à d'autres cultures, parce que c'est une famille brassée, mélangée, de voyageurs, de nomades. Donc tout de suite aussi un rapport à l'humilité, je n'ai pas la vérité, elle est partout, elle prend différentes formes, différentes gueules. D'ailleurs mes frères et sœurs et moi, on a tous des gueules différentes, comme si chacun avait tiré des petites ficelles de sa gueule, de son bagage. Donc il y a un rapport comme ça, ouvrons le visage déjà, tout de suite.
Et puis, votre mère étant chanteuse, donc vous investissez, vous, plutôt le théâtre. Alors, encore une fois, très jeune, j'ai lu que dès l'âge de 6 ans, il y a une pratique, mais il y a aussi des émotions de spectatrice. La mouette de Tchekhov, que vous voyez, je crois, très jeune, qui vous marque.
Oui.
Puis, donc, il y a les émotions que vous provoquez en étant sur une scène. Tout d'un coup, être écouté, pouvoir aussi doser un silence, le faire durer. Les émotions, elles sont aussi bien de la salle que sur la scène, pour vous ?
Je crois que j'ai toujours été une enfant très hypersensible, ressentant les choses. Quand j'ai commencé le théâtre, on m'a dit « Elle est très mignonne, mais on l'entend pas. Elle est charmante. » Alors qu'après toute ma vie, on m'a dit « On peut baisser un petit peu, mademoiselle, on est tous un petit peu au bout du scotch. » Un rapport au volume, voilà, un petit peu aléatoire, on va dire. Et je dirais pour l'émotionnel, pareil, tout un coup étant complètement submergé, enfin... très traversé, quoi, le vent passe, comme s'il y avait, ouais, la peau était trop exposée au vent, à l'émotion. Du coup, je pense que c'est aussi ce besoin d'inventer des rituels, d'avoir des cahiers de mots, et que très vite, la littérature, je pense, j'ai lu Madame Bovary à 10 balais, ouais, je comprenais à la fois rien et tout. Savoir que d'autres avaient souffert, avaient vécu, avaient traversé le monde. Je sais pas, je pense au roi, dans Le Roi se meurt de Ionesco, qui dit que, aidez-moi, enfin, je veux dire, votre mort m'aidera pour la mienne. Vous m'apparaissez innombrable, mais soutenez-moi dans mon expérience des vivants. Et je crois qu'il y avait ça, cette espèce de tendresse, d'émotion, de gratitude. D'autres ont vécu, d'autres sont morts, d'autres ont aimé, d'autres ont souffert, d'autres ont cherché. Donc voilà, le continent frère et sœur est devant. Et ça donne du courage. Donc les mots, dire, le théâtre, la beauté aussi, comme si vraiment l'accès à la beauté pouvait tout de suite m'aider aussi, me consolait, même déjà enfant. Il y avait de la consolation par la beauté.
Et les cahiers de mots, c'est quoi ça ?
Ben, j'avais des cahiers de mots, j'avais genre les cahiers genre rage de vivre, genre bulle de rêve, et je classais les mots par sensation vénère, brûlante, ardente. Et j'avais mes cahiers de mots comme si je les collectais, les récoltais. Mais ça, c'était vraiment 6, 7 ans, 8 ans. Vraiment l'importance du mot, le mot comme aussi t'es pas seul dans ta gueule, dans ta peau. Si tu peux dire, il y a un petit pont avec le monde. On va pas rester Keblo.
Alors, lycée, évidemment, section littéraire, option théâtre. Comme d'autres avant vous, Estelle Meyer, vous voyez une pièce de Sarah Kane et un nouveau monde s'ouvre devant vous. On va écouter le dramaturge Denis Kelly, qui était mon invité il y a un mois dans cette émission, et ses propos traduits par Michel Zlotowski.
Au début, c'était tellement un choc que ça m'a frappé dans mon jeune esprit. Ça m'a frappé vraiment à un endroit très précis qui faisait peur. Mais ça a ouvert une porte à ce que le théâtre pouvait faire. Mes idées précédentes, c'était ce que ça pouvait être. On aurait pu avoir, par exemple, des idées très restreintes du théâtre. Mais c'est pas vrai. Le théâtre, ça peut être ce que vous voulez que ça soit. La forme était tellement surprenante. Je pouvais pas croire que quelqu'un était capable de faire ça. Et je pense aussi que les choses qui est restée avec moi, c'est l'humanité. Et à cette époque, il y avait beaucoup de pièces où on était choqué, où on était grossier. Des tas de trucs qui pouvaient être utiles, mais ce que je pensais, c'était que la personne qui écrit, j'ai jamais rencontré Sarah Kane, mais la personne qui l'avait écrit était intéressée par l'amour, la vie, travaillait au fait de savoir pourquoi les êtres humains sont humains. Et je pense qu'on a une tendance à dire qu'ils sont humains et qu'ils sont nous, sont mes amis. Moi et mes copains, c'est des humains. Mais les autres, là, qui ne sont pas mes copains, ce n'est pas des humains. Et je ne pouvais pas voir ça chez elle. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était tellement dans l'amour et la paix, mais de façon tellement brutale.
Ça, c'est pour l'expérience de Denis Kelly, découvrant Sarah Kane. Pour vous, Estelle Meyer, ça a eu quel effet de découvrir son théâtre ?
C'est vrai, ça m'a fait penser à la phrase de René Char. La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Et le côté presque Icare ou Apocalypse, j'adore l'étymologie des mots. L'Apocalypse, c'est la levée de voile. C'est pas Bruce Willis avec des gros flingues. C'est genre, tu verras enfin la vérité en face. Et elle m'a fait l'effet de ça. Du cri, ouais. Du cri, de la gueule qui se déforme, des os, de la chair, de la souffrance, de la cathédrale femme qui trouve pas sa place. Ou ça me fait penser aussi à Novarina quand j'ai commencé le théâtre. C'était un de mes chocs à genre 18 ans. C'était quoi, quoi, quoi. pourquoi on est acteur, hein. On est acteur parce qu'on supporte pas de vivre dans le corps imposé, dans le sexe imposé, dans le temps imposé. Et si un jour on se retrouve dans le théâtre, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas supporté. Et ça m'avait vraiment fait flèche.
Alors la suite pour vous, c'est d'abord le cours Florent, puis le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Et c'est là, Estelle Meyer, que vous commencez à travailler le chant lyrique quand même. Vous y venez, auprès de Laure-Marie Meyer, Sylvie Deguy. Dans Niquer la fatalité, vous jouez et vous chantez. On va en reparler. Mais qu'est-ce que vous pensez que l'apprentissage du chant a apporté à votre jeu de comédienne?
Je crois la nudité. Je pense que je faisais beaucoup. Je venais d'une famille nombreuse, bruyante, bordélique, vivante, tourmentée. Il fallait se faire entendre. En plus, j'étais la troisième, donc il y a un côté dans le petit bloc, quoi. Et tout d'un coup, justement, d'avoir accès à la parole personnelle, comme vous avez dit, cette sensation de pouvoir se taire et que le monde est suspendu jusqu'à ce que tu reprennes, cet endroit de communion où tu deviens absolument tout avec tous et toutes. Et le chant, c'était comme ouais, l'épure absolue, c'est-à-dire qu'une voix, elle tremble, elle peut pas mentir, elle fait pleurer, elle bouleverse. Par exemple, quand quelqu'un meurt, je sais pas, tu entends sa voix, t'es beaucoup plus touché que de voir même une photo, ça parle tout de suite à ta peau, enfin, il y a quelque chose comme ça. Où tu comprends pas une langue, t'entends une chanteuse, elle te bouleverse parce que son chant, c'est son âme, c'est comme les yeux. Donc je pense que ça m'a appris une espèce de simplicité, juste à être, à oser, juste vibrer, être du son, et presque avant les mots, quelque chose de très archaïque.
Ça, c'est une pratique qui est pour vous quotidienne, le chant. Est-ce qu'il y a pour le coup des rituels, mais la physique liée au chant?
Ouais, je chante tout le temps. Je me console beaucoup, je m'aide beaucoup, je m'excite beaucoup par le chant, je m'exalte. Par exemple, quand je change mon petit bébé, je lui chante des choses, ou par exemple, pour ouvrir le soir, il y a quelque chose presque qui m'apaise dans le chant. Et oui, c'est une pratique quotidienne parce que je m'en sers beaucoup de ma voix et elle est quand même, j'ai envie de dire, elle est forte et fragile. J'ai l'impression de voir en prendre soin comme un grand cheval, quoi. Faut que je le bichonne, que je lui mette des petites huiles, je lui donne de la bonne eau, je fasse des petites tresses dans sa crinière, ça doit être régulier.
Bah, vous avez évoqué le petit bébé, c'est vrai qu'on s'était vu pour la scène imaginaire de Sarah Bernard. Vous étiez sur le point de donner la vie, voilà, c'était il y a 4 mois à peu près.
Maintenant. C'est ça.
J'ai eu l'occasion souvent d'en parler avec des chanteuses lyriques, pour le coup, qui sont devenues elles aussi mamans. Il y a quand même quelque chose sur la colonne d'air, sur le corps, qui change, évidemment, après avoir été enceinte, après avoir donné la vie. Est-ce que vous avez senti un changement dans votre voix, Estelle Meyer?
Je sais pas, je dirais déjà dans le corps. C'est vrai que la présence de cet enfant dans ton moule intérieur, dans ton œuf, quoi, profond, utérus, j'ai l'impression que ça t'écarte. C'est comme si tu devenais une mère girafe, enfin, une espèce de tour Eiffel ardente, large, puissante, tu portes le monde. Donc c'est vrai que tu dis que t'as un chaudron très large. Donc pour chanter, pour dire, je pense que tu t'écartes. Tu deviens plus, t'as plus d'étoffe aussi, même d'étoffe de vie. Parce que moi, j'avais en plus fait le choix d'accoucher chez moi, donc sans péridurale, debout devant mon canapé jaune, donc en mode préhistorique, quoi. Et donc, c'était dur, c'était âpre. Quand les contractions ont commencé, j'étais là, mais oula, mais je serais à l'hôpital, j'aurais pris la péridurale directe. Je suis presque vénère contre moi. Pourquoi j'ai encore choisi la voie de crête? C'est pénible. Un peu saoulée. Et puis, en même temps, je me suis dit, il faut le vivre comme une transe, il faut changer de dimension. J'ai mis des boules-caisses et je suis passée dans ma bulle en mode, il faut écouter ma respiration, il faut se connecter aux ancêtres, à tout le peuple des femmes derrière, parce qu'on n'est pas tout seul. Donc oui, en effet, ça donne confiance. Du coup, même ça donne confiance dans ton étrangeté, dans ta possibilité que tous les corps y arrivent, trouvent le chemin de la vie. Et ça, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir pour chanter, pour dire, pour être.
Et reprendre ce spectacle aujourd'hui, sans enfant dans le ventre, parce que là, vous l'avez toujours joué... vous l'avez créé enceinte.
C'était très bizarre, c'est ce que je vous disais juste avant qu'on commence. Là, j'ai fait 2 dates à Montluçon chez Carole Thibault et je me suis sentie terriblement seule, vide, presque vraiment genre petit corps, maigrichon. Genre j'étais un peu dans la forêt, comme si justement cet enfant, cette poussée de vie m'aidait à niquer toutes les fatalités et à triompher de tout drame, de toute douleur, de toute violence. Et qui m'avait aussi profondément donné la main. Mais je suis heureuse qu'il ait bu ces mots. Parce que je me dis que du coup, quel talisman aussi pour lui d'avoir déjà niqué la fatalité pendant 9 mois.
Ouais. Mais nul doute que ça y est, vous allez vous retrouver déjà, Estelle Meyer. On voit l'énergie et la vitalité qui est la vôtre. Alors, revenir à votre parcours pour dire que dès avant votre sortie du conservatoire, vous commencez à jouer au théâtre. Puis en dernière année du conservatoire, il y a un stage qui est souvent le cas avec Ariane Nouchkine. À la sortie, vous allez souvent jouer aussi dans les spectacles de François Orsoni, mais aussi avec beaucoup d'autres. Les premières années qui vous voient être quand même très vite accumuler beaucoup d'expériences, de rencontres, de varier les registres. Et à ce propos, on va écouter un court extrait de l'émission avec Judith Chemla dans Affaires culturelles, c'était en septembre 2020. Je lui ai demandé si elle pensait, elle, que les choses étaient allées vite pour elle.
Moi, j'ai le sentiment que ça a été très dense et que j'ai pas arrêté de me nourrir, d'apprendre, d'aller vite, de foncer, de rencontrer plein de gens, d'être passionnée par toutes ces rencontres, par tous ces chemins que j'ai pris. J'ai pris le torrent de la vie, là. Et ouais, ça m'a fait grandir et changer aussi. Au début, j'ai voulu faire du théâtre et la sensation que j'avais, c'était la liberté, puis l'exploration, l'exubérance totale. C'est ça, la folie du jeu. Vraiment sortir de soi-même. Mmh. Avoir l'impression qu'on peut tout explorer, tout jouer. J'ai une sorte d'arrogance comme ça, à croire que je pouvais absolument tout faire. et j'avais envie de composer. Et puis je voyais, ouais, j'avais vu Ariane Nouchkine répéter avec ses acteurs à 14 ans, c'était mon stage en entreprise. J'étais arrivée avec un pull Benetton vert fluo et il y avait des acteurs hyper superstitieux. Donc Ariane Nouchkine était remontée, elle m'avait dit, tu sais, il y a des gens superstitieux, il faudrait que tu enlèves ton pull. Alors j'avais enlevé mon pull. Mais je garde un souvenir de ces acteurs créateurs, c'était Essoudun des Nuits d'éveil. Il y avait Savaloloff, extraordinaire. Vraiment des acteurs merveilleux qui inventaient, qui improvisaient. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc après, quand j'ai commencé à travailler, à 17 ans, très jeune, j'ai travaillé 3 ans de suite dans des compagnies différentes. Sur Shakespeare, Jon Foss, et puis une auteure contemporaine, une pièce sur l'inceste. Et je me dis, oulala, je sens que je fais bien le job, mais... J'ai pas envie de faire bien le job, j'ai envie d'explorer, quoi. J'ai envie pas de faire bien ce qu'on me demande, mais de chercher et de devenir un acteur, créateur comme j'en ai vu.
Alors, Judith Chemla, un peu une âme sœur pour vous, Estelle Meyer.
C'est la marraine de mon bébé.
Ah bah, voilà.
Et je suis la marraine de sa fille aussi. Et c'est sûr que Judith, et c'est vrai qu'elle parle aussi, c'est très juste. Moi, elle me donne tellement de force aussi pour être proue de soi-même. Je trouve qu'elle a une exigence à la vie et à elle-même qui donne de l'espoir, qui donne du courage. En effet, de prendre son vrai visage, de prendre sa vraie ampleur, de pas avoir de fausse modestie avec ce qu'on est venu faire sur la terre. Il y a un rapport à la mission, que je partage avec elle, que j'aime te dire, on est venu dire des choses sur la terre, prenons notre force, prenons notre place, parce qu'on est tous là pour des places joyeuses à accomplir, à donner.
Et vous avez le sentiment, comme elle, dans ces premières années, d'avoir pris le torrent de la vie? J'aime bien cette expression.
Ouais, c'est beau. Moi, c'est marrant, je me sens... je pense que moi, je sais pas si j'ai pris le torrent de la vie, je pense que j'étais moi-même torrent, ou taureau. J'étais très féminine, masculine, j'ai fait beaucoup de boxe, j'avais besoin d'en des coudes, j'avais un rapport à la violence. L'adolescence, pour moi, c'était quand même trash, il y avait une opposition, il fallait faire péter les murs, péter toutes les contraintes, des choses qui m'enfermaient, des choses qui me... J'avais besoin de désobéir, de transgresser, de chercher, d'aller me frotter au monde, à la violence aussi, à des hommes, enfin, à des choses... C'est comme si j'avais l'impression que la violence était cachée, je voulais la voir. Au moins, elle était claire sous mes yeux si je la voyais, si j'allais au monde. Et je me suis mis aussi en danger. Enfin, c'était, j'avais besoin de sauter par la fenêtre et d'aller hurler à la lune, quoi, vraiment. Et de bouffer la terre avec une insolence, un rapport au temps, comme si j'avais l'impression que j'allais mourir dans un quart d'heure et que c'était urgent. Et en même temps, par rapport à mon métier, j'ai l'impression de... Enfin, j'étais en classe libre où on nous a aussi beaucoup valorisé dans des personnalités. Moi, je suis rentrée avec Marie Tudor où j'étais là, bah, le peuple. couple. Genre vraiment, genre j'étranglais des meufs et je les sortais de robes du Liban dorées. Enfin, c'était vraiment là. Je jouais des monstres. J'avais besoin de cette plénitude. Pour moi, la difficulté, c'était de jouer des jeunes premières et de parler de l'amour sans rigoler. Enfin, et d'être toute nue dans une vérité du cœur. Et j'ai l'impression en même temps, ouais, d'avoir eu ce taureau intérieur et en même temps d'avoir une petite fille de paysanne, des pieds solides, un bon cheval de trait aussi. Je suis buffle en plus, en signe chinois, buffle de bois. Donc je sais pas, quelque chose d'archaïque et de lent, et en même temps bélier, donc ça fonce, donc il y a plein d'animaux à quatre pattes et de cornes, et ça se cherche, ça se sculpte. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai déclic aussi quand je commence à m'autoriser à dire, à chanter aussi personnellement, comme s'il y avait d'autres visages qui viennent comme un morceau de vase qui retrouve vraiment toute sa force. Et c'est comme si je me découvrais, je me sens encore super jeune dans le chemin de vivre, de dire, de créer. C'est mon deuxième spectacle, niquer la fatalité, et même de continuer à passer dans des mains différentes, des corps, des langues. Je me sens vraiment une éternelle assoiffée, nouveau-née et ancienne en même temps, très vieille et très jeune. Donc j'ai besoin de mains, d'altérité, et en même temps d'écouter profondément. C'est vrai, ce visage d'argile qui advient, qui continue à se sculpter au vent, à l'eau de vivre, à la transformation de la beauté, toujours du sens, des mots comme vraiment des vents qui te modifient réellement. L'arbre est changé par le courant marin, quoi. Quelque chose comme ça.
Et puis, il y a aussi toutes ces aventures hors des plateaux, et c'est le meilleur, la radio, évidemment. Vous avez entendu d'ailleurs encore la semaine dernière sur France Culture dans l'adaptation en feuilleton de Bye Bye Blondie de Virginie Despentes. Il y a aussi le petit, le grand écran, que ce soit Fabienne Godet dans Nos Vies Formidables, ou dans Garçon Chiffon de Nicolas Maury, ou dans la série 10%, ou en grande sœur de Camélia Jordana dans la série Irrésistible. Alors, ce sont des façons, évidemment, de travailler très différentes les unes des autres, et aussi très différentes de celles du théâtre. Ces expériences-là, hors scène, elles vous nourrissent comment ?
C'est marrant, j'allais dire tout de suite, j'adore la voix. Enfin, c'est vrai, je me rappelle mon premier souvenir à Radio France, je devais avoir 18 ans, j'étais au cours Florent, et c'était genre une fiction, ça s'appelait « Comment j'ai tué ma prof de gym ?» Et ils avaient pris que des meufs qui avaient des voix cheloues pour jouer des petits garçons de 4 ans, 5 ans, des pirates, quoi. Et donc, on avait joué au patin sur les terrasses, j'avais rencontré plein de femmes extraordinaires, où justement, on m'a toujours parlé de ma voix comme un objet, comme une étrangeté. « Ah, je t'entends gueuler depuis le bâtiment. Ah, ta voix, j'adore. » Ou « Ta voix, elle est vraiment chelou. » Je sais. Comme beaucoup de transferts sur cette voix. Où je vous ai tout de suite reconnu avec votre voix. Et je me rappelle de Claude Strass, le directeur du conservatoire, quand je suis rentrée. La première chose qu'il a dit en présentant les différents départements, il a dit « Vous êtes votre voix. » Et ça m'avait vraiment parlé en me disant « Ah, donc cette voix, elle peut être étrange, elle peut déranger, elle peut caresser, elle peut séduire ou déplaire, mais en tout cas, elle fait quelque chose, elle exprime, et donc elle a sa place, et ça m'avait beaucoup rassurée. Et donc de passer dans des choses protéiformes, ça me fait du bien, parce que je trouve que dans la vie, et comme dans ce métier, faut pas trop s'installer. Enfin, je veux dire, les fauteuils, il faut se lever, il faut s'asseoir, il faut être sur des petites chaises, il faut être sur des grands sofas tendres, des méridiennes. Il faut bouger parce que tout ce qui ne bouge pas meurt, parce qu'il faut rester souple, parce qu'il faut rester humble. Il faut apprendre de l'autre. Je pense que vraiment, on a besoin de l'altérité, on a besoin d'être dérangé, d'être bougé, d'être confirmé et de voir aussi d'autres choses de soi, parce que chaque regard nouveau sur toi, tu découvres aussi d'autres continents, d'autres terres, d'autres couleurs, d'autres chaleurs, ou des froids. Enfin, ça te déplace aussi dans ton identité. Et je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai choisi aussi ce métier d'actrice. C'était travailler l'humain. C'est quoi un humain ? C'est quoi l'essence d'un humain ? C'est aussi, voilà, vouloir le vivre réellement dans ma chair, de souffrir, de mourir, de me relever, de pleurer que la mort ne tue pas. C'est une espèce d'expérience complètement chamanique, acteur. Tu mets dans ta dans ta peau, dans ta mémoire, des rythmes cardiaques d'autres, des détresses qui ne sont pas les tiennes. Avec cette, ouais, il y a presque un rapport de, je trouve, de possession, de générosité absolue, où tu prêtes ton humanité à d'autres pour essayer de l'approcher, pour que l'autre aussi, qu'on grandisse ensemble. Qu'est-ce que c'est, cet humain, ce passage terrestre, qu'est-ce qu'on fait là? Et vraiment, ouais, le respect absolu de, du théâtre, des acteurs, de ces visages mobiles, comme ces vieux acteurs, je trouve qu'ils sont à la fois si pleins et si beaux, qu'ils sont à la fois transparents et absolument cosmiques, enfin universels, tellement ils ont prêté leur trait, leur âme à réfléchir à l'humanité, à vivre. Et je pense qu'on peut en sortir que grandi si tu le prends avec ses mains nues.
Est-ce que c'est bon de vous écouter, Elmer? Moi, je voudrais que j'arrête de poser des questions. Je vous laisse parler, mais quand même, dire, vous avez dit comédienne, mais chanteuse également, une activité qui a quand même pris beaucoup de place dans votre palette artistique. Il y a eu d'abord les bars dans lesquels vous chantiez vos compositions, et puis après, ça a été les Trois Baudets, puis le Zem, puis beaucoup d'autres lieux, des festivals, et puis il y a eu un EP, 6 titres quand même, sorti en 2019, Sous ma robe, mon cœur, des chansons qu'on a retrouvées aussi dans un livre-disque paru aux éditions Rive-Neuve Archimbault, un spectacle déjà, concert-spectacle, avec Grégoire Letouvet, le pianiste, et le batteur Pierre Demange, qu'on retrouve dans Niquer la fatalité. Vous l'avez notamment joué au Plateau Sauvage, mais c'était un concert-spectacle, mais c'était quand même vos chansons, vos compositions à ce moment-là. Est-ce que c'était pas, pour le coup, vous parliez de mise à nu, est-ce que c'était pas la plus grande mise à nu pour vous, ce début-là?
Si, je me rappelle mon premier concert, j'étais allée voir une acupunctrice fée que j'aime, et je tremblais, et vraiment j'étais là, mais je vais pas y arriver, c'est trop intime de chanter, de dire, je pense aussi avec cet héritage, où pour moi chanteuse c'est ma mère, c'est soprane légère, c'est mon grand-père, c'est le violoniste classique, avec cette voix chelou, faite d'air, de cassure, de beauté, comme si je savais pas encore, et elle m'avait fait ça sur mes pieds, elle m'avait frappé les pieds, vraiment comme genre, elle m'avait dit... prends ta route, marche, prends ta route. Et ça m'a marqué, c'était avant mon premier concert, mes sabots frappés, vas-y, va courir ma fille, ça m'avait fait ça. Et donc ça m'a fait prendre ma route, et le chant, la parole, l'écriture, oser mes mondes intérieurs, oser dire, oser ma quête aussi dans les spectacles de communion, de rituel justement, qu'est-ce qui fait que dans un spectacle t'arrives seul, et qu'à la fin t'as l'impression de faire partie d'une espèce de famille déchaînée, joyeuse, mais vraiment déchaînée au sens, j'ai fait péter mes chaînes. Et le théâtre, justement, comme l'église absolue, comme la montée vers le ciel, enfin vraiment comme l'endroit où tu te recous chamaniquement, où tout, tu n'es plus séparé.
Bah, il faudrait que je vous demande l'adresse de votre fée, ça m'intéresse.
Et avec joie.
Mais on va parler de Niquer la fatalité, et évidemment évoquer une femme qui a toute son importance, Gisèle Halimi. On va se faire le plaisir quand même d'écouter sa voix et d'écouter ce témoignage où elle explique d'une certaine façon l'origine de son combat féministe, l'origine au sein même de sa famille.
Mes parents l'avaient pas inventé, c'est une hiérarchie qui était tout à fait commune et pratiquée partout dans le même milieu que le nôtre. Les filles servaient les garçons. Mon père, moi, ça me faisait plaisir parce que je l'aimais, je l'adorais, mais servir mes frères, que je trouvais complètement cancre, je trouvais ça très injuste, et c'est pour ça que j'ai décidé de pas les servir. Quand j'ai résisté, que j'ai fait la grève de la faim, je devais avoir 12 ans.
Et comment ont réagi vos parents quand vous avez refusé?
D'abord, ils m'ont laissé dans mon coin. Et le troisième jour, ils étaient un petit peu inquiets. C'est là où ils ont fait venir ma grand-mère, qui faisait de délicieux gâteaux au miel, magnifiques, vraiment une merveille. Elle a apporté ça pour briser la grève. Et moi, j'ai tenu bon. Et finalement, j'ai gagné. Et j'étais tellement fière de gagner que comme j'avais ce que j'appelais mon journal, un petit truc, j'avais écrit... aujourd'hui, j'ai gagné ma première part de liberté. Mon premier morceau, je crois.
Alors, Gisèle Halimi, comment est-ce qu'elle a nourri Estelle Meyer par sa vie, par sa pensée, par son travail, l'écriture de Niquer la fatalité?
Je la découvre à sa mort, en fait, je la connais pas. Enfin, je la connais peu, je la connais comme un nom qu'on entend, mais... Et déjà, je commence par Une farouche liberté. Déjà, je suis folle du titre, Une farouche liberté. Je l'adore. Je défonce le livre, je pense, en une journée, avec vraiment l'impression, comme un rythme cardiaque commun. Et cette fulgurance, cette femme est plus moderne que moi. Elle est en avance. Elle est née en 27, je suis née en 85, mais elle est devant moi. Elle tire le continent humain de sa clairvoyance. Et j'ai envie qu'elle soit ma mère, quoi, ma grand-mère. Enfin, je veux qu'elle m'adopte, je veux la connaître. Et le spectacle commence comme ça, où je lui dis Gisèle. Elle me répond Estelle. S'il m'arrive quelque chose de grave, tu me défendras. Je te le promets. Même si t'es morte, même si je suis morte. Ça commence comme un pacte. Et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait un pacte avec elle au-delà de la mort, où justement on dialogue l'une avec l'autre parce que c'était important pour moi de la jouer aussi. D'être Estelle et Gisèle comme si je l'avais intégrée, ou comme dans les rêves où t'es toutes les figures, en fait. Et en fait, c'est en lisant Une farouche liberté où je me dis, mais je veux faire la plaidoirie de Gisèle pour Djamila Boupacha. Djamila Boupacha, militante FLN, accusée pendant la guerre d'Algérie d'avoir posé une bombe, une espèce pour moi d'Antigone brûlante, et qui sera condamnée à mort, mais qui, enfin voilà, est torturée et violée en prison. Et Gisèle, dans un élan absolu de sororité, traverse la Méditerranée dans l'autre sens, appelée par le frère de Djamila. Et la défend comme sa fille, comme sa sœur, de toute son âme, faisant le procès, comme à chaque fois de Gisèle, d'une individu, de faire avancer la société entière. Et j'en parle à Margot Eskenazi, qui, j'étais en train de dîner chez elle faisait des boulettes. voilà, c'était le soir, et je lui dis, écoute Margot, je veux faire un spectacle sur Gisèle, je voudrais faire la plaidoirie de Gisèle pour Djamila, je veux écrire le journal intime de Djamila, parce qu'on connaît peu ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a dit, et je veux travailler sur la poésie des femmes arabes. Elle me dit « Ok, super, très bien ». Et en très bonne accoucheuse, assez vite, elle me dit « Mais de quoi tu veux parler, toi, derrière ça ?» Et là, elle m'autorise une folie absolue, elle m'autorise la liberté. Et elle m'autorise à écrire, à dire la difficulté, à dire la douleur, à dire la brûlure, à dire mon histoire, à dire le chemin du féminin, du masculin, à dire... Et aussi, autre lien avec Gisèle... Gisèle, elle raconte que pendant 3 semaines de sa naissance, son père n'a pas dit qu'elle était née. Le temps de se remettre de cette fatalité terrible, celle d'avoir une fille. Il en était désespéré, donc ses potes qui venaient le voir. Alors, Fritna, ils disaient, non, toujours pas, tu sais. Et il y en a qui étaient un petit peu étonnés. On est presque à 10 mois, là, quand même. Rien, je te dis, non, rien. Et ma grand-mère, quand ma mère est née, sa première fille, après des heures de poussée, de sueur de sang, la queue de ce fameux petit crâne, la première chose qu'elle dit à mon grand-père à ses côtés, c'est, t'es pas trop déçue. C'est une fille. Donc qu'est-ce que tu fais, en fait, quand tu entends ça de ta mère qui arrive sur Terre? Bah, tu veux la sauver, tu veux faire avancer la lignée, justement avant de faire un enfant. Tu veux rétablir le monde humblement et puissamment et insolemment. Et tu veux gueuler et tu veux... Pour ça, il faut choisir des titres aussi puissants que Niquer la fatalité.
On va en entendre un extrait de ce spectacle. Du texte, bien sûr, mais aussi de la musique et du chant. L'extrait, dans sa version pour France Culture, c'est là où vous l'avez choisi, après réflexion, Estelle Meyer. Alors, il faut le situer. Quel extrait est-ce qu'on va entendre maintenant dans le chapitre 4 de ce podcast, intitulé « Hurler ».
Oui, eh ben, c'est une chanson qui arrive après la plaidoirie du viol de Gisèle Halimi. C'est le procès dit d'Aix-en-Provence, où c'est en 74 un couple de femmes, Anne et Araceli, qui sont agressées et violées par 3 hommes pendant toute une nuit. Et ce procès fera changer la loi, c'est-à-dire que le viol jusque-là est considéré comme des coups et des blessures. Et ensuite, ça sera un crime, grâce à Gisèle. Et c'est la première à 74 à parler du mot « consentement ». Avec une espèce de pionnière comme elle l'est toujours. Et à un moment, dans cette plaidoirie qui dure 24 pages, et dans mon spectacle, elle est plus courte, mais elle dit « Le viol, vous savez pourquoi? Vous savez comment? Vous savez ce qu'il faut faire pour l'empêcher ?» Silence. Non. Nous voulions que la question fût posée. Voyez les chiffres, et donc là j'ai mis les chiffres actuels. En 2019, selon le ministère de l'Intérieur, 22 900 viols ont été déposés en France et 198 000 tentatives de viol. Sur toutes les plaintes déposées, seuls 10% ont abouti. Et là, elle dit, que faut-il faire? Faut-il déposer plainte ou ne faut-il pas déposer plainte? Faut-il avoir recours aux tribunaux? Et la chanson s'appelle « Je porte ma plainte à vous ».
On l'écoute.
Je porte ma plainte à vous. Comme le corps d'une reine, ses cheveux traînent derrière, son diadème est blessé sur sa robe de sang. Je porte ma plainte à vous, comme une arme dont la balle est entrée dans mon cœur. Je porte ma plainte à vous, comme une grenade explose, giclant sur mon corps. Comme un bateau se fend, je porte mon visage plus haut, nu de bleu et d'eau, comme on porte son courage, comme on pleure l'innocence, comme on hurle l'enfant. Comme on touche tes mains pour pas mourir noyé. Je porte ma plainte à vous, ma plainte millénaire de femme, de sœur, de mère, des cris des sorcières. Ma plainte réveille la poussière. Les mortes en sortent fières. Les mortes se réveillent. Les mortes viennent t'aider. Les mortes viennent pleurer. Les mortes chantent. Je berce nos mortes, je les berce en moi, en vous. En nous, elles se lèvent, elles sont plus fortes que nous. Elles sont déjà debout. Je chanterai tout ce qui pousse sur la terre brûlée. Je chanterai la vie, l'éternité. Je chanterai la nuit. Je porterai mes cuisses, mes mains, mon corps de fièvre, frêle et touché, puissant et souillé. Je porte ma plainte à vous. À sa foudre, le malheur se cabre en éclipse rouge et claire. Ma blessure sera lumière. Je porte ma blessure. Je porte la lumière. Les mortes naissent dans le soleil. Les mortes se réveillent. Il faut vivre. Je vis.
Bon, ben on est bien dedans. Cette meilleure, niquer la fatalité. Il faut dire aussi que vous avez évoqué ces premiers mots du spectacle, mais ensuite, à vous. Faites voler en éclats le quatrième mur, vous parlez à chacune et chacun des spectateurs, des spectatrices, comme à autant d'individus hein, qui forment cette communauté éphémère, toujours très émouvante, d'une salle de spectacle. Ce spectacle, vous le faites avec celles et ceux qui sont là, devant vous, avec
vraiment.
Vous.
vraiment. Ça commence où je dis, bah, vous pouvez, pour se détendre un peu le boule, parce qu'on est toujours un petit peu coincé au début, surtout moi, et vous pouvez regarder qui est à côté de vous et dire bonjour à vos voisins. Mmh. Commencez comme ça, comme si c'était une grande famille qui se retrouve. Alors les gens sont un petit peu, ah bon, d'accord. Je dis, vous pouvez lui faire une caresse, lui gratter vigoureusement le crâne, ça réveille. Donc tout le monde est un petit peu étonné. Et qu'on le fasse ou pas, ça fait rire, ça détend. Et c'est important cette première prise de confiance, parce que justement, pour entamer le voyage, pour parler des brûlures, il faut se faire confiance. Enfin, je veux dire, qui est-elle? Enfin, et du coup, moi, je descends très vite. Puis du coup, moi aussi, je touche les gens, je les salue, je prends des mains. Et puis assez vite, je leur dis, est-ce que vous pouvez imaginer que là, sous le t-shirt de votre voisin, sous la chemise de votre voisine, il y a sa peau, il y a son sein, il y a son cœur. Et puis assez vite, je dis, est-ce que vous pouvez imaginer que là, sous nos vêtements, il y a nos sexes? Il y a des poils, bordel, il y a 400 sexes tranquilles sur des petits fauteuils, on est venu avec nos sexes, on les a pas laissés chez nous. Non, genre, aujourd'hui, je le prends pas, c'est un peu lourd. Oh putain, meuf, j'ai complètement oublié de prendre mon sexe. On est venu avec nos sexes. Et en fait, je le dis pour ouvrir tout de suite la fragilité. On est pareil, de chair, de sang. Et aussi de toucher les petits crânes et justement de dire, voyez ce petit crâne-là, il est sorti d'une femme. D'un sexe et des cuisses d'une femme, nous tous. Et donc tout de suite de saluer les ancêtres et le commun. Justement, voilà, le deuxième sexe engendre le premier.
Voilà, ça c'est l'entrée en matière. Je vous laisse imaginer et surtout découvrir la suite, parce qu'il y a beaucoup de dates à venir. Dire que vous serez après-demain au Théâtre Berthelot à Montreuil, ce sera le 8 mars. Le 10 mars, ce sera au Pavillon à Romainville, le 15 mars à la ferme de Bel-État, à Guyancourt, le 19 mars aux rives gauches de Saint-Étienne de Rouvray, le 26 mars à l'Atmosphère à Marcoussis, le 28 mars au Grand Air à La Roche-sur-Yon, 16 avril ce sera au Carré du Perche à Mortagne au Perche, il y aura d'autres dates la saison suivante, 25, et puis j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure Sarah Bernard, ce sera une prochaine grande aventure avec Géraldine Martineau pour une création qui se fera à la fin du mois d'août.
Fin du mois d'août, au Théâtre du Palais Royal.
Alors ça,
on se réjouit.
Là, c'est un autre rythme cardiaque.
C'est ça, une autre niqueuse de fatalité.
Ah oui, ça, toute sa vie. Hein.
Toute sa vie.
Encore une grande Sarah Bernard. C'est passé très vite, mais c'était vraiment, ça fait du bien de vous entendre. Merci, c'était le meilleur d'avoir été notre invitée.
Merci Arnaud, infiniment.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
5 années ont passé depuis le dernier album de Nick Cave and the Bad Seeds, Ghostin. 5 ans durant lequel le leader du groupe n'a pas chômé. Au travail notamment avec son complice Warren Ellis pour un album original, Carnage, en 2021. La composition de bandes originales de films, notamment Blonde, d'Andrew Dominik, sorti en 2022. Ou, plus surprenant, de La Panthère des Neiges, de Vincent Munier. C'est peu dire qu'il nous tardait de voir revenir au complet les mauvaises graines de Melbourne. C'est le cas avec leur nouveau single paru ce jour, Wild Gold, qui annonce un album à paraître cette année où on retrouve intacte la poésie de Nick Cave et la manière céleste des Bad Seeds. Wild God, c'est notre son du jour.
Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory. She was entombed, and he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? We'll be right back.
searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing.
C'était Wild God de Nick Cave and the Bad Seeds, premier extrait de leur album éponyme à paraître le 30 août chez Piace.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je suis à Marrakech au Maroc pour la 17e édition du Festival International de Danse Contemporaine On Marche. Alors pendant près de 10 jours, la danse se déploie dans différents lieux de la ville rouge, des lieux publics, des salles de spectacle, parfois en plein air. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est le public très jeune, nombreux, curieux de ces formes nouvelles qui mêlent des artistes marocains aux artistes du monde entier. Alors beaucoup de Français sont là, mais aussi des Jordaniens, des Palestiniens, des Espagnols ou encore des Belges ou des Canadiens. Alors en parallèle de la programmation, en 2023, le festival avait lancé le prix Taklif. C'est un prix pour les artistes marocains qui permet à une poignée de gagnants de partir en résidence au CCN de Roubaix ou au Carreau du Temple à Paris, par exemple. Cette année, le prix Taklif revient pour la deuxième année, l'occasion pour nous de découvrir cette jeune scène marocaine et de voir se tisser des liens avec les professionnels français. Et c'est le directeur du festival, Taoufik Izzediou, qui nous sert de guide. Justement, je le vois dans la cour là, de l'Institut français. Taoufik Izzediou, qu'est-ce qu'on va voir là maintenant tout de suite ?
Donc on va voir Génération Taklif 23, ça veut dire les gagnants de l'année dernière qui sont partis, qui étaient en résidence un peu en France et en Belgique et ailleurs, qui ont un petit peu, leur travail il est presque abouti et on va les voir. Donc vu que le prix Taklif c'est un prix aussi avec un fond pédagogique, donc on va voir un peu la continuité et en même temps pour donner l'exemple à Taklif de cette année.
Super, bah merci, on va s'installer.
Thank you. Je m'appelle Mohamed Khitadji, danseur, chorégraphe, interprète.
Je m'appelle Lara Audin, chanteuse, musicienne.
Alors, on vient de voir votre spectacle dans la cour de l'Institut français. C'est un spectacle que vous aviez déjà présenté l'année dernière, ici, au festival On Marche. Qu'est-ce qui s'est passé pendant un an ?
Alors, c'est vrai que l'année dernière, on l'a présenté par rapport à la compétition Taclif. Et durant cette année, on a eu une résidence, notamment au Carreau du Temple, qui nous a soutenus. Suite
à Paris, donc ?
Tout à fait, à Paris. On a eu aussi une résidence à l'Institut français, à Danse et Théâtre. Voilà, il y a eu plusieurs résidences qui nous a permis de développer le projet et de vous présenter aujourd'hui le résultat de tout ce processus.
Donc on peut dire que ce festival ici permet finalement aussi de donner le temps au projet de se développer et vous a donné les moyens, vous en tout cas, d'aboutir votre forme.
Tout à fait, ça nous a donné vraiment une belle opportunité de croire en ce projet et de l'amener jusqu'à aujourd'hui, de le présenter au festival. Donc vraiment c'était une super opportunité, Taclif.
On travaille ensemble, on travaille sur la danse et notamment aussi sur la musique. Parce que Lara, c'est une chanteuse et
oui, on vient de l'entendre.
Et tu peux parler aussi par rapport à l'instrument.
Tout à fait.
Parce
qu'il
a une histoire vraiment très spéciale, cet instrument.
Parce que sur scène, on voit. Alors moi, je le définirais comme un orgue de Barbarie, mais j'imagine que c'est pas tout à fait ça.
Si, c'est tout à fait ça. Donc c'était un orgue de Barbarie. Donc c'est ma famille qui les fabrique depuis plusieurs générations. Et donc moi, j'ai fabriqué les cartons perforés, donc la partition de l'orgue de Barbarie, qui était effectivement la scénographie en mouvement. Sur scène avec la danse de Mohad, l'interprétation de Mohad.
Bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Je m'appelle Sylvain Treuil, je suis le directeur de l'Institut français de Marrakech.
Et vous nous accueillez ici aujourd'hui, merci. Vous accueillez une partie de la programmation du Festival On Marche. Quels sont les liens justement entre l'Institut français ici à Marrakech et ce Festival international de danse contemporaine ?
Alors les liens sont très anciens puisque ça fait la 17e édition que On Marche existe et ça fait 17 éditions qu'une partie de ce festival se passe à l'Institut. L'Institut a toujours été au cœur de la création émergente. C'est un peu dans l'ADN de l'Institut et voilà, donc depuis 17 ans, nous accompagnons ce festival en essayant de participer à le faire grandir. Le dialogue culturel a toujours été une des bases de la coopération entre la France et le Maroc. Et les instituts font partie d'un vaste réseau, puisqu'il y a 13 instituts au Maroc. Donc, c'est le plus gros réseau des instituts français au monde. Et donc, on a une grosse programmation. Depuis toujours, avec ce réseau, ça permet de faire tourner des compagnies dans beaucoup de lieux, donc ça a toujours été un plus.
Merci beaucoup.
Merci.
On rentre ici dans une nouvelle salle ce soir, qu'est-ce qu'on va voir ?
Alors on va voir Mohamed Lemqaïsi, c'est l'un des danseurs qui étaient formés avec moi ici au Maroc. Et qui danse aujourd'hui avec Ella Fatoumi et Eric Lamoureux, qui danse dans mes dernières pièces. L'année dernière, elle avait fait une belle pièce, Dihia, et qui a été présentée aussi dans la Biennale de la danse en Afrique, au Mozambique. Et là, il fait encore un travail qu'on avait vu au Work in Progress l'année dernière. Là, c'est un travail fini. Après Mohamed et Angela, on va voir les Jordaniennes. Donc, bon voyage alors.
Merci beaucoup. Donc, bonsoir, on vient de voir ensemble ce spectacle d'IAD ici au Festival On Marche. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Moi, je suis admiratif de l'osmose de ce duo, du rapport de force, du rapport d'amour, du rapport... ces deux corps qui se parlent avec une équité. C'est même plus une question de genre, c'est une question de féminin et masculin, mais les deux complètement liés.
Oui, parce que leurs visages sont bandés, donc on ne voit pas a priori qui est l'homme et qui est la femme, et c'est même pas la question finalement.
Non, parce que dans chacun de ces deux êtres, il y a le féminin et le masculin, il y a la force et la fragilité, il y a le doute et l'affirmation. C'est, pour moi, le deux, c'est le complémentaire, quoi. le duo.
J'ai trouvé que la partie centrale qui est axée sur le souffle, oui, qui est peut-être plus ludique et en même temps plus technique, elle est assez virtuose, non ?
C'est monstrueusement complexe à obtenir parce que c'est une partition, comme une partition musicale, terrifiante, de précision. Si un des deux se trompe d'un temps, il prend le coup de boule de l'autre. Soyons très clairs. Et là, c'est drôle, c'est ludique, c'est au service de la joie d'être avec l'autre.
Merci beaucoup.
Je m'appelle Angela Vanoni, chorégraphe, danseuse.
Et Mohamed Lemqaisi, aussi danseur, interprète, chorégraphe et compositeur.
Ouais. On vient de voir votre duo là ce soir au festival On Marche. J'emploie le terme de duo parce que j'ai l'impression que cette pièce c'est vraiment un duo sur même le thème de la dualité. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu traiter ?
Totalement, oui. On est sur la relation dyadique au sens large, donc comment on cohabite et comment on crée des espaces communs et à l'intérieur de cet espace partagé, à quel moment on réussit à trouver nos espaces personnels et voilà.
Vous êtes marocain, vous êtes française, vous performez ici dans le festival à Marrakech. Quel est votre lien avec ce festival-là ?
Alors moi j'ai vécu, j'ai grandi à Marrakech, je suis né à Marrakech, je suis de Marrakech, j'ai été formé avec Tofik Izidio et la compagnie...
Le directeur du festival.
Ça, le directeur du festival En Marche et la compagnie Nyanya depuis 2011. Et après j'ai voyagé, j'ai travaillé en France et c'est là où j'ai rencontré Angela, chez le Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, avec Ella Fatoumi et Eric Lamoureux.
À Belfort.
À Belfort, exactement. Et du coup, on a bossé 4 ans là-bas. On a gardé toujours le lien avec Tofik, avec le festival. Tofik, chez lequel on bosse tous les deux en tant qu'interprète aussi sur sa nouvelle pièce.
Sur sa prochaine pièce, d'accord. Exactement. Donc le Maroc vous a adopté aussi finalement, il faut croire. Et je l'ai adopté aussi de cœur, totalement. Ouais. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci à vous.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, suite du Grand Tour au festival On Marche de Marrakech.
Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassil, Iseri Poche et Emma Rouberti.